Bonjour à tous, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Une Chantal un peu tristounette, car elle a appris, tout comme vous, qu'elle ne pourra voir ses proches à Noël. Mais bon, nous sommes une famille résiliente, une famille combative et une famille philosophe, alors nous trouverons un moyen de nous dire « je t'aime » malgré la distance. Toutefois, comment réinventer encore ce qu'on ne finit plus de réinventer? Hein, on est tanné d'entendre ce mot-là et je viens de le dire deux fois. En s'inspirant peut-être de gens qui ont su, au fil du temps, se redéfinir dans de nouveaux rôles, évoluer dans de nouveaux univers, s'adapter à de nouvelles réalités. C'est le cas de ma première invitée, qui à 17 ans, soit l'âge de mon fils Vincent, a séduit les juges d'un concours similaire à La Voix ou à Star Academy et qui s'appelait, dans le temps, Les Découvertes de Yolan Guérard à cette toute nouvelle chaîne qui s'appelait Télémétropole, aujourd'hui TVA. Puis, elle nous a fait rire dans une émission à heure de grande écoute qui a été la première émission à cumuler des millions d'auditoires. Avec une émission, ma foi, assez tannante, et là, je crois que je viens de vous donner un très bel indice. Elle a aussi charmé nos papilles pendant 28 ans à titre de restauratrice, et maintenant, elle nous sensibilise à l'importance de nourrir nos liens avec les aînés de notre entourage. Vous avez bien sûr reconnu Shirley Theroux, que j'ai le grand plaisir de recevoir à Au fil du temps. En seconde partie, nous amorçons une nouvelle chronique qui parlera d'argent, de foin, de blé, de bidou, de cash. Bref, cette jonglerie que nous devons faire entre ce que nous gagnons, ce que nous dépensons et ce qu'il reste à la fin. Pour démarrer cette émission, bien sûr, nous devions faire entendre du Shirley Theroux et c'est un grand classique qu'on appelle un homme, mais que la plupart des gens reconnaîtront sous le titre « C'est beau, un homme ».
C'est beau, un homme. C'est si beau, un homme. On est toujours fiers de se montrer auprès de l'homme. Mais l'on sait bien que c'est un moyen de plaire davantage aux autres hommes. C'est beau un homme, c'est jaloux un homme. Il a toujours dans l'idée qu'il existe un autre homme. Mais en riant, dites qu'il y en a cent. Le voilà rassuré pour quelque temps. C'est beau un homme, c'est brutal un homme. En colère c'est terrifiant, ça casse tout un homme. Pourquoi pleurer l'orage passé? Vous aurez un enfant à consoler. Ah, c'est beau un homme, c'est loyal un homme. Il regarde franchement toutes les femmes en somme. Il n'est jamais tout à fait discret. On ferme les yeux quand on aime un homme. Mais on sait qu'on partage un petit peu son âme.
Un homme, c'est beau un homme, Shirley Theroux. Elle a charmé nos oreilles comme chanteuse, nous a fait dilater la rate comme tannante, a nourri nos estomacs comme restauratrice et aujourd'hui, c'est nos liens et nos cœurs qu'elle nourrit comme porte-parole de la Journée nationale des aînés qui avait lieu le 1er octobre. Bonjour Shirley!
Bonjour Chantal.
Quel plaisir de vous recevoir.
Ben, je suis très heureuse. Je vous remercie de m'accueillir comme ça chez vous.
Oui, chez nous, hein, c'est ce qu'on essaie de faire à l'émission, une petite impression de bulle, tout le monde ensemble, en faisant découvrir des parcours de vie, ma foi, très enrichissants comme le vôtre.
Oui, c'est enrichissant pour moi-même. Tu sais, au fil du temps, d'ailleurs, comme le titre de votre émission, au fil du temps, on se découvre et on se redécouvre soi-même aussi.
Ah, ça sera intéressant de vous entendre sur ce sujet. Et je voulais un petit peu qu'on démarre sur les grandes leçons de vie que vous avez apprises lors de ces trois, je dirais peut-être, grands blocs de vie. Peut-être ouais. d'abord comme chanteuse, c'est vraiment une carrière que vous avez démarrée assez tôt. Et je faisais le pendant avec les concours La Voix et Star Academy. Donc, quel parallèle vous pourriez faire avec cette époque et maintenant?
Eh bien, c'était la même chose, hein. Il y avait les concours d'amateurs ont toujours existé, même dans les années 50. Ça existait à la radio, à CKAC, CKVL. À cette époque-là, je me souviens, toute jeune, j'étais allée à CKVL. C'était les découvertes de Billy Monroe. Mm-hmm. Et c'est Margot Lefebvre qui avait gagné. Je pense que Claude Gauthier avait participé à ce concours-là. Et après, bon, j'ai été pensionnaire et tout, mais à ma sortie du pensionnat, il y avait, c'est ça, Télémétropole était née en 1961. J'étais encore pensionnaire à ce moment-là. Mm-hmm. Et il y avait les découvertes de Yolande Guérard à TVA, qui est l'ancêtre, au fond, de La Voix.
Ben oui, c'est ça.
Alors, je dis ancêtre parce que ça fait quand même quelques années. Et c'est ça, j'ai participé. Il y avait Daniel Guérard et moi qui avions gagné le premier prix là à ce moment-là. Et la carrière a débuté. Mais bien avant ça, une carrière là, pour moi, là, Chantal, une mm-hmm. carrière d'interprète, de chanteuse comme moi, là. On vient au monde avec ce cadeau-là. C'est un cadeau, hein? C'est un cadeau de la vie. Alors, moi, quand je suis née, maman m'a toujours dit, me disait, écoute, tu parlais à peine et tu chantais les chansons. Ouais. Là. Alors, c'est inné, hein? Chez nous, c'est un cadeau, tu sais. J'ai des parents qui adoraient la musique, qui allaient voir des spectacles. Et nous, les cinq enfants, on a étudié le piano. Et puis, tu sais, il y a l'environnement aussi qui est fait pour beaucoup, là, pour chez une enfant.
Oui, il y a le don et comment on le fait prospérer. Mais voyez-vous des différences entre la carrière des chanteurs maintenant et celle que vous avez vécue?
Oh oui, totalement. Totalement. Moi, j'ai vécu le face, j'ai vécu les grandes années, mm-hmm. parce que même à mes tout débuts, écoute, on faisait, il n'y a pas une émission qui avait en bas de 5, 6, 7 musiciens.
Ouais.
tu sais, à mes débuts, moi, je me souviens, j'ai fait une co-animation au début de ma carrière, dans les années 65, dans ce coin-là, co-animé avec Henri Bergeron à Radio-Canada, oui. à la radio. Ça a été mes tout débuts comme co-animatrice. Ça a été Henri Bergeron, ça a été comme mon mentor.
C'est Deux villes, une musique, ça.
Oui, Deux villes, une musique. Une semaine, c'était Montréal, puis l'autre semaine, c'était Québec. Et puis, on avait 16 musiciens, là. Il y avait des cordes. Puis c'était Gordon Fleming. Écoute, c'est tellement des belles années pour moi, là. Gordon Fleming, c'était un grand, 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 grand accordéoniste.
Oui.
Et Buck Lacombe, qui était un excellent guitariste aussi. Ouais, écoute, je suis née sous une bonne étoile, ma belle Chantal.
Ça fait du bien à entendre. Et là, j'ai envie de vous faire entendre un extrait pour qualifier un peu ce deuxième segment de votre vie. Alors, je demande à... C'est pas Télésino, mais Maurice en studio de nous faire entendre cet extrait.
OK, on écoute.
Trois balles. Une balle chaque? OK, une balle chaque. Qui va le premier? Roger. Et je me sacrifierai comme toujours. Après beaucoup de pratique, je serai le dernier. Elle me manquera sûrement pas. Voulez-vous remplir votre coup de pratique, ma belle Irène? De toute façon, vous avez le 50$. Là, il vous reste plus juste une chose.
Roger.
Le plaisir d'en envoyer un.
Je vais aller te rejoindre.
Irène, un coup de pratique.
Coup de pratique.
Bon.
Irène. Non. Pas comme ça.
J'ai l'impression que ça va être ma fête.
Comme ça, Irène.
Wow!
Irène. Voyons.
Avec ton veston, Roger.
Roger, avec le veston?
Avec le veston, monsieur.
Soyons braves. Ça paraît que ça vient des costumes. Attention, Irène.
Vous avez sans doute entendu une scène, en tout cas moi, qui m'avait marqué des tanants, soit cette fameuse plongée dans la piscine. Et bien sûr, Shirley, là, on entend davantage vos acolytes que vous à la chanson, mais j'étais curieuse de voir ce que ça fait surgir.
Mais je vais vous dire que ça surprend les gens, ça va vous surprendre vous aussi. Quand toute cette période-là est arrivée avec Roger Giguère, Pierre et la piscine, moi, je n'y étais plus, Chantal.
Oh!
Je n'y étais plus, mais il y a des gens qui m'obstinent, qui m'ont vu tomber dans la piscine, mais je n'y étais plus. Moi, j'ai fait les midis et j'ai fait les débuts de la soirée avec Roger Giguère, quand Roger est arrivé, on a fait les débuts de soirée. Et là, moi, j'ai quitté. Et c'est l'année suivante, avec le nouveau réalisateur, toute la nouvelle équipe, où ils ont décidé de faire les concours Elvis d'amateur et faire la piscine. Mais je n'y étais plus. Moi, j'ai vécu les tanants. Ça a été pour moi... C'est M. L'Herbier, qui était notre directeur, qui m'a vu. J'étais allée faire une émission de Claude Blanchard où on m'avait demandé de participer à un sketch. Puis je l'avais fait... j'aime ça m'amuser, puis j'aime rire et tout ça. Puis c'est là où M. L'Herbier m'a vu, puis il dit, écoutons, la petite, c'est une comique, ça. Alors, il m'a approché pour participer au tanant, le midi. Et on a débuté, nous, ça devait être un 13 semaines d'été, ma belle Chantal. Et ça a duré 4 ans et demi.
Oui. Puis en plus, vous êtes reparti en tournée, je crois. Il y a eu un livre qui a été écrit sur le phénomène.
Oui, il y a eu un livre, oui. Il y a 3 ans, le producteur Martin Leclerc a eu la bonne idée de repenser les tanants, mais avec Joël Denis, Pierre et moi. Et on a fait une belle tournée qui a duré 2 ans. Il y a un livre, le livre est très bien fait parce que le livre, c'est l'histoire des tanants, mais c'est l'histoire de TVA, de Télémétropole aussi, de M. L'Herbier. Et, toutes ces belles années de la télévision, là, c'était merveilleux. Là, on a fait de la création, c'est incroyable. On l'a créé de A à Z, là.
Mais c'est vraiment une émission qui est assez fétiche. Et moi, je me rappelle parce que j'étais une enfant à clé.
Ben oui.
Je revenais de l'école et c'était un plaisir d'écouter l'émission, là. Il fallait que j'ai fait mes devoirs avant.
Oui. Oui, oui, ça, c'est important. Puis voyez-vous, Chantal, moi, j'ai beaucoup de gens, au moment où j'avais mon restaurant dans le Vieux-Montréal, beaucoup de jeunes hommes d'affaires qui regardait l'étonnant le midi au retour de l'école. Il revenait à la maison pour le lunch du midi, puis là, il regardait une partie d'étonnant, puis là, il retournait à l'école après. Puis plusieurs m'ont dit, je me suis tellement fait disputer parce que votre sketch au tanant débutait à, mettons, à 1h05, hein?
Oui.
À 1h10, c'était terminé. Mais nous, avec les années, on a continué. Fait que les enfants se rendaient pas compte. On finissait à 1h20. Fait qu'ils arrivaient en retard à l'école puis ils se faisaient disputer. Puis les jeunes me disaient, mais écoute, Shirley, on pouvait pas dire à notre professeur, ben c'est de la faute, mais je regardais tannant, tu sais. Enfin, c'est la première émission de télé au Québec qui a fait 2 millions de personnes.
Absolument, absolument. C'est ce que je disais en introduction. Ça a vraiment marqué. Et,
oui.
Et votre séjour en restauration aussi, je lisais ça, 28 ans au restaurant La Boucherie, c'est exact?
Oui, exactement. J'ai été... La Boucherie, ça a été justement à l'époque des tanants, ne sachant pas si notre contrat était pour être renouvelé, puis c'était comme le mois d'août. Alors, j'étais dans un resto à côté avec ma mère. On était en train de manger. Et le propriétaire m'a dit, écoute, Shirley, si à côté, on va vendre le restaurant. Alors, je suis allée avec maman, puis elle revenait à la maison. Je disais à Pierre, regarde bien, là, qu'on ait un contrat l'an prochain ou pas, là. On va avoir un travail, puis on va pouvoir mettre du beurre sur notre pain, puis payer notre loyer. C'est comme ça que c'est arrivé. Le restaurant La Boucherie, c'est moi qui l'ai découvert avec ma mère. Et Pierre et moi, on y a été pendant 10 ans.
Oui.
Et j'ai fait un 18 ans avec une belle équipe autour de moi.
Fascinant. On va continuer, Shirley, tout de suite après la pièce musicale, à discuter de ses leçons de vie, parce que je crois que vous vous êtes découvert vraiment une fibre entrepreneuriale, là, une vraie couenne là, de femme d'affaires.
Oui.
Et donc, mais je veux, juste avant, je veux qu'on reparle un peu de... En fait, je fais entendre la chanson, puis on se reparle après.
Ah, parfait, excellent.
On ne refait pas sa vie, on continue. Et je repars aujourd'hui pour l'inconnu. Je n'ai pas peur de mon âge, de voir 20 ans. J'ai retrouvé le courage des débutants. J'ai chassé le mot hier de mes pensées. Mes regrets tirent en arrière sans rien régler. Je ne sais pas si tout s'oublie, mais tout revient. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Qu'il me reste assez de cœur et de talent. J'ai 2 ou 3 choses à faire pour en sortir. J'ai 2 ou 3 choses à dire dont je suis fière. Libre pour n'importe quoi si ça me tente. Surtout libre d'être moi, si ça me chante. J'ai plus de rêves à rêver que Cendrillon. Et tout un monde à aimer dans mes chansons.
On ne meurt pas à 40 ans.
On ne meurt pas à 40 ans. Composé par Eddie Marnay. Mais vous m'avez fait découvrir quelque chose, Shirley. C'est très beau, ça.
Ah, c'est une grande chanson. Hein. Que c'est, ben, quand je, il y a longtemps que je l'ai entendu. Mon Dieu, que c'est beau. Hey, quand tu dis « Je crois que l'homme est plus grand que son décor. » Je crois qu'à chaque tournant, on est plus fort. Hey, j'ai plus de rêves à rêver que Cendrillon. Eddie Marnay, là, c'était un magicien des mots.
Tellement, tellement. Et je sais qu'il y a une histoire derrière cette chanson.
Oui, il y a une histoire. C'est une histoire triste. C'est au moment où mon mari m'a quittée. Et puis, évidemment, ça a été un moment très douloureux.
Oui.
Et puis, mon fils avait que 3 ans et demi à ce moment-là. Et puis, Eddie Marnay, j'ai rencontré Eddie. Et c'est Eddie qui a trouvé le titre de la chanson parce qu'il m'a dit... oui, on va travailler ensemble, Shirley. Ma petite Shirley, qui m'appelait ma petite Shirley.
C'est joli.
Je vais vous écrire des chansons. Puis il m'a dit, après tout, Shirley, on ne meurt pas à 40 ans. Alors, le titre est parti de là. Puis c'est lui qui a réalisé l'album en studio. On a vécu de très, très bons moments ensemble. Ça a été comme une thérapie, cet album-là, on ne meurt pas à 40 ans. Et c'est ça, on se remet debout, hein?
Ben là, ça fait 35 ans depuis tout ça pour vous. Là. Il y a eu plein de leçons de vie. Donc, j'étais curieuse de voir comment vous avez réussi à surmonter tous ces creux de vagues-là. Et là, je vous ramène dans l'expérience de la boucherie parce que je me disais, comme restauratrice, vous devez en ce moment avoir beaucoup de compassion.
Et comment vous ne pouvez pas savoir à quel point je pense à ces gens-là tous les jours dans ma vie, non seulement aux propriétaires, mais aux employés, que ce soit à la cuisine, à la plonge. C'est tellement... Les gens, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est une équipe normalement tissée, serrée. Mais comme on est interdépendants les uns des autres, c'est une chaîne, hein? S'il y a un maillon à la chaîne qui bloque et qui débarque, c'est terrible. Et je pense à ces gens-là. Quand tout ça a commencé, ça a été pour moi, mon Dieu, que c'est l'enfer. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que ce sont des familles. Moi, là, j'avais 32 familles. J'avais pas 32 employés. J'avais 32 familles parce que mes employés, ils avaient des familles. Alors, j'étais responsable de 32 familles. Et quand il arrivait des problèmes, que ce soit avec les banquiers ou avec, peu importe, là, les fournisseurs et tout ça, je leur disais toujours, écoutez, moi, je suis responsable de 32 familles. Et c'est parce que c'est la restauration, on est à la merci, c'est quotidien. Si aujourd'hui ça va pas bien, ça va se répandre sur tout le reste de la semaine, tu comprends? Donc on est à la merci de tellement de détails, que ce soit le chauffage, la climatisée l'été, la lumière qui allume pas, l'électricité, le poêle à gaz en arrière, vous pouvez pas savoir, c'est des millions de petits détails, la propreté du restaurant, comment accueillir à l'accueil du public, le service, écoutez, quand on met la clé dans la porte là pour ouvrir là, et voilà, c'est parti, mon kiki!
et c'est ça, je lisais un peu pour préparer la recherche avec Catherine. À quel point vous vous êtes découvert une fibre, là, une couenne plus dure que vous le pensiez pour affronter un petit peu tous ces enjeux-là?
Oui, absolument. Je l'ignorais totalement que j'avais cette fibre-là et que je pouvais devenir un pitbull. Vraiment, là, pour protéger mon monde, moi, c'est comme, tu sais, c'est comme, viens pas toucher à ça, viens pas mettre ça en péril, tu sais. Et c'est là où j'ai découvert, mais là, je me suis demandé d'où ça me vient, ça.
Avez-vous trouvé?
Ben oui, j'ai trouvé, ça me vient de mon père. Mon père, c'était un brillant homme d'affaires. Et puis, mon père m'a légué ça, cette capacité-là de me tourner sur un dissous, puis de aller puis de foncer et d'être capable d'absorber et d'être vif fallait être vite, fallait que j'apprenne vite, là. J'ai appris, moi, je sais pas, j'ai pas fait mes études pour devenir. Fallait que j'apprenne rapidement, mais c'est ça. Moi, c'est ma mère m'a donné le cadeau de ma voix, de mes talents d'artiste peintre. Et mon père m'a donné, comme on disait à l'époque, la bosse des affaires.
Mais c'est un merveilleux cadeau, art et affaires. C'est très rare, les gens qui réussissent à exceller autant dans ces deux sphères.
Oui. Oh oui, c'est deux cadeaux de vie. Mais je l'ai réalisé, je vais vous dire, je l'ai réalisé après, après la boucherie. Tu me dis, comment ça se fait que j'ai une boutique de vêtements pour enfants aussi, la ville de la Baie?
Oui.
Et aller faire les achats, les vêtements, tout ça, tu sais, c'est ma fibre de femme d'affaires qui était là, puis qui a pris sa place. Et mais j'ai eu beaucoup, j'ai aimé ça beaucoup, là. C'est excitant, là. Mais faut travailler fort.
Et là, Shirley, dans ce deux minutes déjà qui nous reste ensemble.
Oh, OK.
Là, je suis curieuse de voir quelle fibre est sollicitée par votre engagement pour la solidarité envers les aînés, là, la campagne Je m'engage.
Ça, là, j'ai toujours eu un penchant pour les aînés. Quand j'ai fait une émission de télé qui s'appelait Il y a plein de soleil, j'ai fait ça pendant 11 ans avec Louis-Paul Allard, Tex Lecor et compagnie. Et moi, je faisais les entrevues avec des centenaires.
Wow!
avec des centenaires, puis oui, avec des centenaires. J'ai fait ça très longtemps. Et c'est là où j'ai appris à aimer les aînés. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents. Je pense que ça vient de là. Et là, avec la fondation de l'Institut de gériatrie Montréal, qui est un cadeau quand on a pensé à moi, parce que j'ai l'âge maintenant de je suis une aînée moi-même, j'ai l'âge maintenant, et la sagesse, je me garde, de m'impliquer avec les aînés. Alors, si la solidarité des aînés, c'est tellement important, et voyez-vous, depuis 9 mois, à quel point le public en général découvre l'importance des aînés dans nos vies.
Tellement. Shirley, je donnerai l'adresse du site Internet en conclusion. On doit déjà se laisser, mais ça a été merveilleux de vous parler. Je suis dans une bonne humeur grâce à vous. Un gros, gros merci.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, on n'oublie pas les aînés. On reste solidaires des aînés. Et je vous souhaite de très joyeuses fêtes, Chantal.
Pareillement. À vous aussi, Shirley Théroux. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
En deuxième partie de l'émission, nous discutons avec Caroline Lalande de Mosaïque Cabinet Services Financiers avec une introduction d'une pièce musicale, ma foi, qui résume un dilemme de toute une vie. L'argent fait-il ou pas le bonheur? Cette fois-ci, on va y aller dans la gaieté, dans une pièce légère. Ça dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, cette pièce-là, elle le fait. Alors, voici les Parisiennes.
L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Choisir des robes et des chaussures dans un magasin et la petite cape de fourrure qui vous irait bien. Prenez gaiement tout ça sous votre bras et partez sans payer. On vous apportera les oranges à la santé. L'argent ne fait pas le bonheur.
Il est un sujet dont nous avons peu discuté à Au fil du temps, et pourtant il est essentiel, il est au cœur de nos vies. L'argent. L'argent nous propulse, l'argent nous restreint, l'argent devrait être un serviteur et non un maître. Donc, on trouvait important d'aborder ce sujet aussi fondamental parce qu'il nous aide à réaliser nos projets. Et je reçois pour en discuter Caroline Lalande, qui est conseillère en sécurité financière à Mosaïque, cabinet de services financiers, et également autrice de « Apprenez à contrôler vos dépenses », guide pour tous ceux qui n'aiment pas se faire un budget chez Béliveau Éditeur. Bonjour Caroline.
Bonjour Chantal.
Votre titre est particulièrement éclairant. Je crois que c'est le cas de plusieurs personnes. Hein. Quand vous dites le mot budget, là, il y a des oreilles qui frisent.
Oui, en effet, faut pas se sentir mal de ne pas être capable de faire ou de suivre un budget parce que vraiment, c'est la majorité de la population qui se trouve dans cette situation-là.
Ah oui, hein?
Oui, tout à fait. En fait, on est plein de belles intentions. Souvent, on arrive à faire un budget très difficile à suivre à travers le temps et surtout le maintenir. Donc, l'idée, en fait, du livre était d'offrir des options alternatives pour ceux qui avaient peut-être un peu plus de difficultés avec la discipline très carrée d'un budget.
Mais parlons-en de ces disciplines-là. Je peux vous dire, moi, personnellement, j'utilise des solutions qui, une fois mon budget établi, me donnent des petits rappels. Donc, j'utilise entre autres Mint, qui m'envoie un rappel de où je suis rendue dans tel ou tel poste budgétaire. Puis des fois, ça m'aide à réfréner un peu mes ardeurs.
Oui. En fait, c'est beaucoup ça le défi. Le grand défi est toujours de se freiner avant l'achat. Mm-hmm. Et c'est d'autant plus pertinent comme ça avant les fêtes, parce qu'avec les fêtes, la féerie s'en vient, etc., on est un peu plus emballé dans tous les sens du terme. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de trouver des façons qui fonctionnent avec nous, parce que chaque individu est différent. Donc, de trouver sa façon de freiner la dépense ou de réfléchir la dépense. Et quand on réfléchit la dépense, bien, la beauté, c'est quand on décide vraiment d'acheter l'item ou d'aller de l'avant avec cette chose-là, bien, on l'apprécie encore plus parce que c'est vraiment réfléchi.
Mais vous parlez de féerie. Et là, on s'entend cette année que la féerie risque de prendre une petite débarque et on essaie quand même de garder la magie au milieu de tout ça. Par ailleurs, c'est sûr que les Canadiens, les Québécois ont tendance à dépenser quand même relativement une bonne somme pour la période des fêtes. Mais là, cette année, comment vous croyez que ça va affecter un petit peu les dépenses et le budget de Noël, des fêtes de fin d'année?
C'est sûr que l'année qu'on a vécue change énormément de choses pour plusieurs. Donc, oui, tout va être différent. On va avoir, par exemple, moins de fêtes de famille, donc moins de nourriture, moins d'alcool peut-être, moins de petits cadeaux d'hôtesse, etc. Donc, toutes ces dépenses-là risquent d'être freinées. Moi, je suis quelqu'un qui croit qu'il y a toujours du beau, peu importe la situation. Et ce que je trouve de magnifique cette année, c'est qu'on se retrouve plus vers l'essentiel. Donc, on a plus une réflexion à savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que souvent, les fêtes, on est beaucoup dans le fla-fla et bon, c'est la féerie, c'est super le fun, puis c'est un moment particulier de l'année. Mais en même temps, des fois, à travers tout cet artifice-là, on perd un peu l'essentiel. Et cette année, je crois qu'on va vraiment regarder l'essentiel, donc s'y diriger. Et je trouve qu'au final, je suis persuadée, en fait, qu'on va avoir de très belles fêtes, très différentes. Mais au niveau de la consommation, on va vivre quelque chose d'autre qui risque d'affecter la façon dont on va faire nos dépenses dans le futur.
Est-ce qu'il y a des études ou des statistiques qui actuellement nous éclairent un peu sur comment le budget des fêtes des Canadiens ou des Québécois sera impacté par la pandémie?
Je trouve ça intéressant que vous posez la question parce qu'en fait, il y a très, très peu d'études là-dessus. On n'en parle pas beaucoup. En fait, la situation actuelle, c'est qu'il y a une portion de la population qui a été peu affectée, puis une autre portion qui était grandement affectée. Donc, c'est difficile de dire comment tout le monde va le vivre. Par contre, on sait que les fêtes, comme on les connaît, festives, en famille, ça se passera pas comme ça cette année, ou du moins ce serait très surprenant. Donc, il y a très peu d'études qui ont été faites à ce niveau-là. Il y a certaines appréhensions, par exemple, sur les temps de magasinage, comme le Black Friday, le Boxing Day, etc. Quel va être l'impact? On parle beaucoup de l'augmentation des ventes en ligne. On parle beaucoup de l'intérêt pour l'achat local. Quel va être vraiment le résultat de tout ça? Ce sera à voir.
Bien, ce sera à surveiller, effectivement. Et je me demandais, bon, là, si on suit le contrat moral que nous propose le gouvernement, on parle de deux rassemblements. Donc, effectivement, ça coupe sur le budget, comme vous le dites, nourriture, alcool, cadeaux d'hôtesse, tenues festives et autres et autres. Donc, comment pourrait-on, si on avait cette latitude-là de faire ce type de dépenses, quelle posture on pourrait prendre pour se dire, bon, ça génère peut-être un petit surplus. Quoi faire avec cet argent-là?
Oui, bien en fait, une des premières choses qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est à quel point on va se laisser emporter au moment où il y aura peut-être plus de restrictions. Donc, on risque de compenser dans l'excès à une autre période de l'année en 2021. Donc, je pense que ce serait sage de tout de suite prendre pour acquis qu'éventuellement, on va se rattraper sur les festivités. À savoir quand ça va se passer, ça reste autre chose. Mais moi, je pense que c'est inévitable. Je sais que, par exemple, dans ma propre famille, du moment où on peut voyager librement entre les régions, ben, je pense qu'on va avoir de très beaux rassemblements, très festifs, peu importe le mois de l'année. Donc, une des choses qui serait peut-être sage de faire, c'est de prévoir ça d'avance et de mettre un certain montant de côté. De plus, pour certaines personnes, les fêtes, c'est un temps qui est difficile par la suite. Donc, on dépense trop et ensuite, on se retrouve avec des cartes de crédit non payées, etc., au mois de janvier.
Un grand classique.
Exact. Et donc, peut-être que cette année, c'est l'opportunité de mieux gérer nos finances, de ne pas se retrouver dans cette espèce de cercle vicieux dont il est très difficile de se sortir, et donc de mieux planifier, de moins dépenser. Et j'ose espérer qu'à ce moment-là, on va créer des bonnes habitudes pour les années à venir. Parce que c'est pas vrai que pour avoir un Noël réussi, on doit absolument dépenser beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, on retourne à l'essentiel parce qu'évidemment, tout ce qui est alternatif ne nous est pas vraiment permis. Donc, on retourne à l'essentiel, on dépense moins. La chose sage à faire serait d'en mettre un peu de côté. Et puis surtout, peut-être d'avoir une bonne réflexion sur quelles sont les dépenses qui sont nécessaires.
Dans les 2 minutes qui nous restent ensemble, Caroline, peut-être 1 ou 2 trucs justement pour s'atteler à ce fameux budget 2021.
Oui. Mais en fait, un des trucs, quand on veut... Bon, si on parle de budget, évidemment, dans un monde idéal, c'est vraiment d'aller catégoriser nos dépenses. On peut se baser, on ressort tous nos relevés de cartes de crédit, de comptes bancaires, etc. Et on a vraiment une réflexion globale sur où sont nos dépenses, les catégoriser et puis ensuite suivre le modèle. Toujours très important, l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas prévoir les imprévus. Ils sont prévisibles, donc il faut absolument mettre un pourcentage pour les imprévus. C'est souvent ce qui fait dérailler les budgets d'ailleurs. Pour ceux qui sont incapables de faire des budgets, mais il y a certaines méthodes qui peuvent être utilisées. Et une des premières méthodes, c'est d'arrêter de payer de façon diverse. C'est-à-dire que vous pouvez payer tout avec votre compte bancaire ou tout avec votre carte de crédit ou tout comptant, mais ne faites pas les 3 parce que quand on fait les 3, on perd le fil de ce qu'on dépense. Donc, quelqu'un qui, par exemple, paye tout par carte de crédit, à condition, bien entendu, qu'on rembourse intégralement la totalité à chaque mois, à ce moment-là, cette personne-là peut très bien suivre quelles sont les dépenses d'un seul coup d'œil et savoir, oups, ce mois-ci, je suis allée un petit peu trop fort et se rajuster rapidement. Donc ça fait partie dans des méthodes pour les 100 budgets à suivre qui peuvent avoir évidemment là, des belles répercussions à la longue.
Donc je vais rappeler le titre de votre livre, Apprenez à contrôler vos dépenses, guide pour tous ceux qui n'aiment pas se faire un budget. Et on aura certainement le plaisir de se reparler en 2021, Caroline.
Ce sera un plaisir.
Alors c'était Caroline Lalande, conseillère en sécurité financière à Mosaïque, cabinet de services financiers. Merci. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone.
while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
C'était Ruby Tuesday des Rolling Stones. Dans cette chanson, on entend Goodbye and I'm still gonna miss you. Cette chanson, je souhaite l'offrir en mémoire de mon oncle, Marc Doré, décédé ce 3 décembre à l'âge de 65 ans, à ce même hôpital où son père est parti il y a 10 ans. Mon oncle était atteint d'un cancer qu'il savait mortel. Et il devait être transféré récemment en CHSLD pour y finir ses jours. Mais il a refusé le transfert et il a plutôt demandé l'aide médicale à mourir. Comme il savait que c'était une question de temps, il a préféré le choisir, ce temps. Il a aussi préféré choisir la manière de mourir dans la dignité. Je sais que ce n'est pas un sujet facile à aborder, mais il m'apparaît essentiel de le faire. Parce qu'au fil du temps, ça couvre l'entièreté de ce fil. Il y a un début au fil et il y a une fin au fil. Et après avoir discuté cette semaine avec des gens du secteur de la santé, on me dit que c'est vraiment un privilège de pouvoir choisir quand et comment on décide que nos jours, quand nos jours sont comptés, comment ils seront terminés. Ceci dit, la loi concernant les soins de vie est un processus encadré avec beaucoup de rigueur. Il y a plusieurs critères et ce sont des critères essentiels. D'abord, ce doit être une maladie grave et incurable, dont le déclin est avancé et irréversible, dont les souffrances sont difficilement supportables malgré les soins palliatifs mis en place. La personne doit être majeure. Elle doit être apte à consentir sans pression extérieure et ce faisant, elle doit en avoir discuté avec ses proches et à son médecin à plusieurs reprises. On ne peut le demander en avance non plus, même si on sait que c'est une maladie incurable. Il y a un délai de 10 jours qui peut parfois être raccourci. Il y a beaucoup de jurisprudence qui a influencé cette loi-là ces derniers temps. Il y a beaucoup de cas dont, qui ont été discutés dans les médias. Et je trouve que c'est un sujet trop profond, trop sérieux pour, comment je vous dirais, pour y aller sans parler avec quelqu'un dont c'est la spécialité, dont c'est qui a l'intelligence du propos et la notion des faits. Donc, en 2021, nous allons parler avec un neurochirurgien qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Il s'appelle Georges L'Espérance. Et je me disais, non, mais quel nom pour travailler dans ce domaine? Ben, peut-être que c'est ça, hein, l'espérance de faire une bonne vie et de pouvoir la terminer dans les meilleures conditions possibles. Pour tout vous dire, en 2015, il y a eu 6 demandes d'aide médicale à mourir et en 2019, 1589. Donc, ça nous montre à quel point, confrontés à une situation inéluctable, on a envie de le faire avec douceur et dignité. Et c'est d'ailleurs le choix qu'a fait la grande dame de théâtre, de cinéma et de télévision, André Lachapelle, qui, suite à un cancer incurable, a demandé l'aide médicale à mourir à 88 ans. Donc, à 10 heures, le 3 décembre dernier, je me suis recueillie pour souhaiter à mon oncle un dernier voyage en douceur et dans la dignité. J'ai voulu le remercier avec cette chanson parce que mon père nous a demandé si on voulait lui transmettre un dernier message par Messenger parce que mon oncle, qui était un mélomane, incidemment, était devenu sourd au fil des ans, donc il ne pouvait nous parler. Et je lui ai envoyé un message pour le remercier de m'avoir fait découvrir la musique, les Rolling Stones notamment. Je me rappelle de tous ces vinyles qui étaient dans le sous-sol de sa chambre, en fait dans le sous-sol de la maison chez mes grands-parents. Et ben c'est ça, je voulais le remercier de m'avoir fait découvrir la musique et je crois que tout le monde joue un rôle dans notre vie et c'est peut-être pas étranger à cette découverte qu'aujourd'hui je choisis ma musique au fil du temps. Donc je vous propose qu'on termine en douceur justement avec nous ramener Shirley Theroux, tiens, qui a lancé en 2016 un album de Noël et il y a une pièce qu'elle a choisie qui est « Marie-Noël ». De Robert Charlebois, qui est, ma foi, une de mes pièces de Noël préférées. Je me dis, combien de décembre encore j'aurai dans ma vie? Alors, quand décembre revient, je vous invite à écouter Marie-Noël de Robert Charlebois, chantée par Shirley Theroux.
Décembre revient, quand la neige, neige, ton visage me revient en rafale de rire d'étoiles. C'est nous deux à l'envers, quand mes rêves, rêves, à ces Noëls rouges et verts, nos 8 ans. Nos amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille joujou fragile. Petit Noël de mes Noëls d'enfant. Quand décembre revient, quand résonne, sonne, se souvient des manèges, des boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisaient tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite
petite fille joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. Marie Noël, Marie Noël, petite fille joujou fragile, petit Noël. Décembre revient, plus la neige neige sur mes Noëls rouges et verts, mes 8 ans, mes amours d'hiver.
Marie-Noël de Robert Charlebois, chanté par Shirley Théroux. Ma foi, c'est tout doux. Et Catherine Bourderon, à la recherche, me disait « C'est fou, on dirait entendre Alice Robbie. » Donc oui, j'ai un petit peu entendu ça moi aussi. Alors c'est ainsi que se termine cette 28e émission d'Au fil du temps. J'ai été enchantée par Shirley Théroux. C'est une femme qui m'a ravie, qui a fait preuve d'une résilience ma foi, vraiment très inspirante, et je vous invite à découvrir sa page Facebook officielle. Également, le site Internet Solidaire des aînés, donc Solidaire au pluriel, des aînés au pluriel. Et il y en a un qui a très, très bien compris le message de Shirley Théroux envers l'importance de prendre des nouvelles de nos aînés. C'est le jeune Steven Bilodeau, que l'on avait reçu cet été, le 14 juillet. J'étais très, très fière de savoir que Steven a été sacré personnalité jeunesse lors de l'émission la semaine des 4 juillet, le top gala métro. Et je tiens à le féliciter de tout cœur. Voilà vraiment quelqu'un qui a compris à quel point ce temps entre générations, ces liens entre générations sont essentiels. Je tiens également à remercier Caroline Lalande, dont le site Internet est mosaïquefinance.com, mosaïque, A-I-K, finance au pluriel, .com. Alors, encore une fois, une émission que j'ai eu le grand plaisir d'animer avec une équipe extraordinaire. On se disait, Maurice et moi, qu'on est passé par toute la gamme des émotions dans cette émission-là. Je disais que Shirley m'avait rendu de bonne humeur, et puis ensuite, avec cette finale très sentimentale, mais on se disait, Maurice et moi, ben c'est ça la vie. Et je tiens d'ailleurs à souhaiter un joyeux anniversaire à notre Maurice Bolduc National. Il va atteindre un 6 magnifique décennies demain. Merci à Louis Garon, chef d'antenne, à Catherine Bourderon à la recherche. Et la semaine prochaine, on reçoit une autre grande dame, une grande dame extraordinaire. C'est ma chouchou, ma préférée, Jeannette Bertrand. Alors, je vous embrasse de loin, mais de si près. Et je vous souhaite une semaine tout en douceur. À bientôt.